When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un grand classique des années 80, enfin classique pour nous. Il s'agit de The Hitcher de Robert Harmon et je suis avec mon ami Rafik Djoumi pour en parler.
The terror starts the moment you stop for the Hitcher.
What do you want?
I want you to stop me.
Ça va, Raph?
Ça va, Steph?
Ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on va parler de Hitcher.
Ouais, on va retourner aux glorieuses années Starfix des années 80.
Film culte, clairement.
Ben, culte, en tout cas, pour la petite communauté de nerds qui ont vécu les années 80 et eu un magnétoscope dans les années 90. Ouais, c'était un produit indispensable. C'est un film qui a, pour moi, je peux pas le détacher de ce magazine-là, puisqu'il a vraiment été mis en avant dans ce mag. Mmh. La presse française de l'époque se foutait royalement de ce film aussi, mais il représentait en fait un peu une idée de cinéma qu'on avait beaucoup de mal à faire avancer auprès de la critique à cette époque du moins, c'est-à-dire celle d'un cinéma vraiment de concept, quoi, poussé jusqu'au bout. C'est un film conceptuel, hein, Hitcher,
complètement,
avec un véritable effort de mise en scène et une véritable déculpabilisation par rapport à tous les effets visuels qui, à l'époque, étaient un peu la chasse gardée de la pub et du clip. Donc, il a représenté ça pour cette génération, presque équivalent à Highlander de Russell Mulcahy, en fait.
Mais ça tient quand même un peu mieux la route.
Sauf qu'il a mis un peu mieux traversé les années. Ouais.
Voilà. Alors, Hitcher, donc, c'est un film de Robert Harmon, c'était son premier film. Depuis, en fait.
Son premier long, en fait. Mais il y a eu Shine a Lake avant, que je n'ai pas vu, un thriller psychologique avec Charles Napier, mais je crois que
ouais, c'est un court métrage, il me semble.
Ouais, d'accord. Ouais. Mais effectivement, nous, on l'a pris en tout cas comme un premier film, et c'est aussi ce qui rendait le projet insensé, c'est que des premiers films de ce niveau-là, il y en a très peu. Et à l'époque, il était comparé à un autre premier film, mais pas le moindre, qui était Duel de Steven Spielberg. Mmh. On citait très souvent Duel par rapport à Hitcher, puisque basiquement, ça se passe aussi sur la route. C'est aussi un pauvre gars qui va se retrouver harcelé par un fou furieux. Sauf que là, le fou furieux, on le voit. Il a pas de camion, c'est Rutger Hauer dans toute sa splendeur.
Et dès le début. C'est-à-dire que le film commence comme ça. C'est-à-dire que le personnage de C. Thomas Howell récupère en fait cet autostoppeur en fait sur la route un soir de pluie battante. Mm. Et en fait, comme c'est Rutger Hauer, il s'avère qu'il est très très étrange dès le début et qu'il lui fout une lame sous la gorge en fait et qu'il menace de le tuer au bout de 5 minutes de film. Si Thomas Howell s'en débarrasse. Et en fait, il est poursuivi par ce personnage qui revient en permanence et qui, quelque part...
Il s'en débarrasse, mais un peu plus tard, sur la route, il voit une famille. Et à l'arrière de la voiture de cette joyeuse famille, il voit son agresseur. Et là, il réalise qu'il n'en a pas fini avec lui.
Ouais. Voilà, et c'est un espèce d'étau qui se resserre contre lui, puisque, en fait, même s'il est incarné par Rutger Hauer, qui, je veux dire, à cette époque-là, avait carrément un magnétisme incroyable, hein, Rutger Hauer, il est décédé l'année dernière, en fait, donc un grand acteur de Paul Verhoeven, à cette époque-là, en fait, considéré comme un Klaus Kinski propre. Je ne sais pas si on pourrait dire propre, mais en tout cas, plus méthodique et moins fou dans la vraie vie, peut-être, même si je pense qu'il avait quelques...
Ben, à cette époque-là, il a été un peu divinisé, Rutger Hauer, par son rôle dans Blade Runner, en fait. Hein, c'est ça qu'il est, voilà, qui renvoie à quelque chose de pas humain, en fait.
Voilà, et c'est un peu ce qu'il incarne aussi dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, il représente quelque part le mal absolu. C'est-à-dire cette espèce de concept implacable qui poursuit le personnage principal, qui l'enferme, en fait, dans un étau parce que personne ne le croit, il n'y a qu'une seule personne qui le croit, qui est une espèce de jeune fille en fait qui est interprétée par Jennifer Jason Leigh, qui est presque, j'ai envie de dire, la bouée de sauvetage du personnage principal. C'est même son peut-être le seul élément un peu de pureté en fait qu'il peut avoir.
Qui va être bien une pureté détruite d'ailleurs.
Ouais, complètement, ouais. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Donc en fait, bon, c'est vraiment un film conceptuel. Alors c'est écrit par Eric Red.
Ouais. Et c'est basé en fait. Eric Red raconte que l'idée lui en est venue alors qu'il roulait lui-même en bagnole, qu'il pleuvait et il écoutait la chanson des Doors, Riders on the Storm, voilà, qui raconte en gros ça, hein, une rencontre sur la route. Et il s'est dit ça ferait quand même un putain de bon début pour un film. Donc cette scène que tu as décrite, cette scène d'ouverture, elle vient directement de la chanson des Doors. Le script d'Eric Red était beaucoup plus violent que le film ne l'est, même s'il reste quand même des beaux morceaux. Hein. On trouve des doigts dans les hamburgers et... Ouais. Et on massacre un commissariat entier. Mais
apparemment, c'était un œil à la place.
C'était un œil, ouais. Donc voilà, le projet un peu circulé, parce que c'est un projet indépendant, donc il a le script plaisait beaucoup, justement, pour ces premières pages complètement dingues, parce que t'as envie de savoir comment ça se termine, quoi. Ouais. Ce gars, dès le début du film, il arrive tellement de merde, alors qu'il a rien fait de mal, que tu dis mais où ça va nous mener cet enfer. Que du coup, il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés sur le script. En fait, ils avaient envisagé des tas de comédiens pour les deux rôles.
Dans le rôle de John Ryder, c'est ça le nom du
Witcher.
Du Witcher, c'était Sam Elliott.
Il y a eu Sam Elliott à un moment donné. Il y a eu Michael Ironside aussi qui avait été envisagé. Ils avaient évidemment lancé des grands noms, David Bowie, etc. Eric Red, lui, l'avait écrit en pensant au guitariste des Rolling Stones au départ. Mmh. Dont le nom m'échappe sur l'instant. Mais effectivement, oui, ils avaient aussi pensé à Sam Elliott. Et Rutger Hauer, lui, à l'époque, ne voulait plus faire de rôle de méchant. Il avait tenté de se réinventer dans, à mes yeux, cette merde qui est Lady Hawk.
Richard Donner.
Hein. Richard Donner. Mais comment dire, mais il a tellement trippé, pareil, sur l'implacabilité de ce bad guy qui s'est dit si je dois encore interpréter un méchant, il faut que ce soit celui-là précisément.
Non, et puis en plus, c'est lui qui clairement l'aborde, alors avec évidemment la mise en scène de Robert Harmon, en fait, qui l'aborde vraiment comme un concept. C'est ça vraiment le concept du mal, c'est-à-dire vraiment l'idée comme le scénar il va direct, en fait, autant jouer vraiment cette carte-là. Et cet aspect à la fois monolithique et magnétique, en fait, du personnage, quoi. Ça peut-être préciser que Eric Red, alors c'est par la suite, en fait, c'est à la base un scénariste de série B, hein, mais dans le sens noble du terme. Il a notamment écrit Aux frontières de l'aube, hein, pour Catherine Bigelow, qui est un pur concept de série B. On en avait déjà parlé dans un podcast, hein, Capture. C'est le croisement entre le western et le film de vampire. Il a aussi écrit, il a réalisé un film, en fait, un polar assez sympa, assez couillu, en fait, qui était Cohen Tate, en fait, avec Roy Scheider.
Qui est sorti directement en vidéo à l'époque chez nous, mais qu'on avait eu la chance, lecteur de Starfix, de pouvoir voir en salle. Parce
je l'ai vu vraiment tardivement.
Ils avaient fait une projection exceptionnelle au Max Linder et je les en remercie encore. Et effectivement, oui, où tu as pareil, qui se passe aussi sur la route, où c'est comment dire. Deux tueurs à gages de la mafia qui doivent se débarrasser d'une famille d'un mec qui doit témoigner contre eux, en fait. Donc ils butent le mec et sa femme, mais ils gardent le gamin. Ouais. Et en gros ils ramènent le gamin chez le parrain, quoi. Et le film raconte le voyage, en fait, et ce gamin qui a l'air, donc c'est l'innocence incarnée, va très vite comprendre qu'il a moyen de manipuler, en fait, ces deux tueurs en les montant l'un contre l'autre, quoi. Et ça, c'est le film est assez
Yojimbo avec un gosse,
ouais,
quoi,
ouais, fait, c'est ça.
Et il a fait aussi Body Parts. Alors moi, je ne sais pas si tu l'as vu, ce film. C'est une petite série B sympa. Pareil, qui est sorti direct en vidéo chez nous, parce que ça a été un bide aux États-Unis. C'était avec Jeff Fahey. C'est l'histoire d'un type, en fait, lambda, qui a un accident, je crois, de voiture, perd son bras, et on lui greffe un autre bras, en fait, qui se trouve être le bras d'un serial killer.
C'est ça.
Du coup, il se retrouve à tuer des gens.
C'est un remake de La Main du Diable, les mains d'Orlac, pardon.
Voilà. Mais alors... axé très série B, très très voilà. C'est des concepts un peu comme ça que lui il traite vraiment. Alors lui, ça c'est aussi un film qu'il a réalisé et qui traite de façon assez comment dire énergique. Voilà, c'est pas aussi. C'est-à-dire Hitcher, tu sens que la patte de Robert Hammond, c'était vraiment de tirer le film un peu vers l'abstrait, en fait, vraiment de un peu plus, en fait, à travers sa mise en scène,
oui.
À travers l'aspect très prononcé de suspense, en fait, qui est. Voilà, enfin, tu peux pas. Encore une fois, lui-même utilise ce langage-là, de manière très précise, et comme tu disais, effectivement, avec un visuel qui est. Alors, moi, je trouve qu'il s'en sort quand même beaucoup mieux que ce que tout ce que vous pouvez faire dans la pub et le clip de cette époque-là, quoi. Parce que ça travaillait aussi l'essence du western de manière assez, comment dire, pas classique, mais en tout cas avec goût, je dirais.
Bah, déjà, c'était un film qui n'était pas un film à gros budget, mais où le soin apporté à la photographie donne l'impression que c'est riche. Et c'est aussi l'avantage du western, c'est-à-dire que, bah, en gros, un désert, ça ne coûte rien, en fait, comme décor. Mais quand tu sais filmer le désert, on a l'impression que ton film coûte de l'argent.
Ouais, clairement.
Et du coup, Hitcher, en tout cas, quand, je me rappelle, c'est sorti en France dans un circuit tout à fait normal, quoi, comme un blockbuster de base américain. Et les gens le voyaient comme un blockbuster de base, alors que son budget ne devait pas dépasser celui d'un film français à la con. Hein. Donc c'est aussi toute l'ingéniosité, mais le talent photographique, ça enrichit visuellement le film. Et il y a aussi, comme tu l'insistes, il tire vers le fantastique. Parce que le récit est tellement ahurissant, au sens où c'est vraiment, en gros, c'est comment la vie d'un mec lambda est détruite en quelques secondes. En gros, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il a pris un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre. Ça, c'est quelque chose qui a donné lieu à d'autres films concept. Et je pense que ces films concept, même si j'en ai pas la preuve, ont été des inspirations pour Eric Red au moins, et peut-être pour Robert Harmon. Je pense à deux films. Le premier, c'est Détour d'Edgar G. Ulmer, donc série B des années 40, dans laquelle justement un mec fait un détour à un moment donné et il aurait jamais dû le faire. À partir de là, sa vie va devenir un putain d'enfer où tout va s'enchaîner pour l'emmener droit vers l'enfer, en fait. Et un film de Aida Lupino des années 50 s'appelle The Hitchhiker, dans lequel donc deux mecs prennent un autostoppeur qui va les prendre en otage, en fait.
Le titre s'impose là aussi, ne serait-ce que ça, quoi.
Et les deux films jouent énormément de l'aspect, bien sûr, film noir, c'est des films en noir et blanc, mais du coup du caractère fantasmagorique qu'il y a dans ce noir et blanc hyper contrasté. Le film d'Ulmer, Détour, on a vraiment, même si à aucun moment le mot n'est prononcé, on a vraiment l'impression que c'est Dieu qui a décidé de le faire chier. Enfin, je veux dire, et à un moment donné, tu te dis, ce mec là, mais pourquoi il arrive tout ça, quoi, tu vois. Dès qu'il tout ce qu'il va tenter de faire pour se dégager de sa situation ne va faire que l'aggraver. Et c'est ce qui se passe dans Hitcher. Jusqu'au bout, c'est Thomas Sowell essaie d'être un brave gosse, en fait, un brave gars. Et d'ailleurs, je pense que le choix de casting était super important. Il me semble qu'ils avaient envisagé Emilio Estevez à un moment donné pour
lui. Il y a pas mal de noms de cette époque-là, les Tom Cruise, les mecs comme ça aussi.
Mais à la limite, Tom Cruise, il aurait été trop mature pour le rôle. Je pense qu'il fallait un mec qui fasse vraiment gamin. Tu sens qu'il a envie de bien faire. C'est un mec cool, sympa. Et jusqu'au bout, il essaie de se sortir de sa situation d'une façon honnête. En fait, la bascule du film, c'est au moment où il comprend qu'il doit devenir une brutasse, quoi. C'est le moment où il comprend qu'il doit lui-même devenir.
Bah, c'est là où le pousse, en fait. C'est la raison pour laquelle. Bah, parce qu'il y a cette notion qu'effectivement, chaque personne que John Ryder va croiser va mourir. C'est-à-dire que, par exemple, quand le personnage de C. Thomas Howell se retrouve en prison. À un moment donné, il se réveille et en fait, tous les gens
se sont fait
flinguer, sauf lui. Lui reste vivant. Et l'idée, en fait, justement, du film, et c'est pour ça que je parle vraiment d'abstraction aussi par moment, c'est cette idée, en fait, que la raison. Enfin, quand le personnage de C. Thomas lui pose la question, pourquoi tu me cours après? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu veux? C'est effectivement l'idée de le pervertir. L'idée de le ramener, en fait, à l'animalité, en fait. Voilà. C'est pas. Il y a des films, en fait, de cette époque-là qui traitaient un peu ce genre de logique différemment. Hein. Moi, je pense notamment, même si c'est deux films assez différents, finalement, Predator de McTiernan, c'était aussi ça. C'était un retour à la bestialité, en fait, qui s'imposait. Parce qui on est en tant qu'humain quand on se retrouve dans des situations spécifiques comme
et
ça.
Et c'est marrant que tu cites le nom de McTiernan, parce qu'il y a un lien, en fait, entre les projets, dans la mesure où comme c'est un film indépendant, Hitcher, c'était un film difficile à... dont le financement était difficile à monter. Et ce qui a permis son financement, c'est qu'il y avait une nana qui avait entendu parler du script, qu'on lui avait décrit comme littéralement duel avec un mec. Mmh. Et donc, elle a demandé à le lire par curiosité parce qu'elle bossait pour HBO à l'époque. Et c'est elle qui a été intéressée par ce script et qui l'a proposé à HBO. Et donc, ça faisait une prévente suffisamment importante pour que le projet puisse se monter. Et cette nana s'appelle Donna Dubrow. Mmh. Et c'était la première femme de John McTiernan. Mmh. Oui.
Voilà. Donc, il y a cette notion-là. Après, alors, ce qui est assez marrant avec le film, je trouve, c'est que c'est un film qui, finalement, regarde en France, par exemple, il y a un DVD qui est sorti il y a 20 ans maintenant, il n'y a pas vraiment de Blu-ray, il y a un Blu-ray allemand, je crois, quelque part, qui traîne. C'est un film qui a un nom qui est connu, mais que finalement...
Qui a été remaké, même.
Voilà, qui passe plus à la télé, justement, en fait, qui a pas seulement été remaké, mais qui a eu le droit à une suite, en direct ou vidéo, au début des années 2000, alors qui est clairement pas du niveau du film vrai, mais c'était Louis Morneau. Et à tout prendre, moi dans mon souvenir, c'était quand même largement meilleur que le remake qui est produit par Michael Bay, qui est sorti en 2006 ou 2007, je crois, avec Sean Bean dans le rôle de John Ryder, quoi. Et alors là, pour faire vraiment un distinguo avec le film original, pas seulement en termes de qualité, pour le coup, ils sont vraiment allés chercher un clipper, en fait. Je sais plus, je crois que c'est Samuel Bayer, enfin, je crois que c'était lui, je suis pas sûr, faudrait vérifier. Un peu un de ces gars interchangeables qui faisait les prods de Michael Bay à l'époque, quoi. Et le film est atroce, en fait. Tout ce qui peut faire la qualité, on va dire, du film original est complètement jeté à la poubelle, notamment en fait dans même le des soucis de fabrication, de mise en scène, en fait. Je pense que tu l'as pas vu, toi.
Non.
Te connaissant,
rien à foutre.
Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais voilà, mais c'est vrai que non, parce que après, c'est pour les gens qui cherchent éventuellement. C'est pas sûr.
Tout l'intérêt d'un film comme The Witcher de Robert Harmon, c'est justement cette qualité opératique fantastique. Si le film n'avait pas cette patte-là, si ce voulait réaliste, ça marcherait moins, quoi. Le concept
ceci
est tellement...
étant dit, fonctionne comme ça aussi.
Oui, mais le concept est tellement fort à la base, qui est celui de ce tueur qui a besoin qu'on l'arrête. C'est pas inconscient, il le dit. Il dit au héros, je veux que tu m'arrêtes, quoi. Je vais tout faire pour que tu m'arrêtes. Je vais te pousser à bout. Et donc, il est prêt à tuer la terre entière pour s'assurer que le héros bascule et le bute. C'est complètement dingo. Alors c'est une pure idée de scénariste. C'est le genre de truc qu'effectivement, quand t'es devant ta machine à écrire, ça te fait kiffer, ce genre de concept. Après, il faut le vendre au public, quoi. Et le film, il le vend justement par cette mise en scène très onirique. Il y a des effets de mise en scène qui, déjà à l'époque de la sortie, étaient non pas datés, mais bizarre, comme cette scène de la station-service où donc l'essence a coulé sur la voiture et on a Hitcher qui craque une allumette pour obliger le héros à se barrer. Filmé en hyper ralenti, c'est au-delà du Sam Peckinpah, quoi, si tu veux.
Non, mais il y a une dilatation du temps. En fait, il y a clairement le langage du thriller, en fait, qui est poussé, en fait, dans certains extrêmes. C'est ça qui fonctionne parce qu'il maîtrise ses effets. Mais c'est ça qui est d'ailleurs assez étonnant avec quelqu'un comme Robert Harmon, c'est que c'est quelqu'un qui a complètement disparu des radars derrière, c'est-à-dire, puis qui n'a jamais, mais jamais, refait un film de cette qualité-là, quoi.
Clairement, puisqu'on s'était tous précipités des années après pour voir le film suivant, qui était Les yeux d'un ange, avec John Travolta... film hyper embarrassant sur un chien qui traverse les États-Unis. Alors,
mais je crois qu'il s'en était défendu en disant que justement il voulait pas faire un film d'action, il voulait vraiment faire un film.
Ça avait le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté Travolta qui jouait une espèce de loser, en mode semi-réaliste, et de l'autre côté tout le délire autour de ce chien Lassie là qui traverse les États-Unis, superbement cadré. Hein. Je me souviens au cinéma qu'il y avait des super plans sur ce clébard, mais c'était voilà. C'était une production Disney, quoi, pour le coup. Et Nowhere to Run,
Cavale sans issue, voilà, avec Jean-Claude Van Damme. Je ne délire pas sur le film, mais il y a deux choses là-dedans qui sont intéressantes à noter. C'est que pour le coup, Van Damme était vraiment allé chercher Robert Harmon pour Hitcher. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a casté, qui l'a choisi, qui l'a demandé auprès de la Columbia sur, je crois, un scénar de Joe Esteraz, un vieux scénar de Joe Esteraz. Qui datait d'une dizaine d'années et qui a été repêché suite au succès de Basic Instinct. Voilà. Donc il y avait une espèce de petite alliance, parce que bon, Van Damme, à l'époque, c'était encore une star de cinéma, vraiment. C'était pas un people comme il l'est devenu, quoi. Et du coup, on pouvait espérer éventuellement qu'il pouvait se passer quelque chose à ce moment-là. Et en fait, effectivement, le film est assez décevant. Mais même le truc, c'est qu'il a fait un film d'horreur, je crois, au début des années 2000.
Le peuple des ténèbres.
Voilà, qui aurait pu en fait fonctionner sur un aspect conceptuel comme ça, mais qui ressemble vraiment à une film dimension de cette époque-là. Je pense au prod de Bob Weinstein, en fait, vraiment les films d'horreur un peu raté, et il a refait une espèce de, pas de remake, mais de film à la Hitcher, en fait, à la Duel, à la Hitcher, voilà, avec Highwaymen, dont j'ai, pareil, absolument aucun souvenir. Je m'étais un peu jeté dessus en me disant, ah, c'est peut-être le film de la dernière chance, peut-être qu'il va retrouver une certaine, même si, bon, t'as pas forcément envie de le voir refaire automatiquement la même chose. Et le fait est que le voir se lancer sur le même sujet, le même truc... voilà, dans mon souvenir, je m'étais dit, ok, c'est parfaitement oubliable quand tu connais Hitcher, et même quand tu connais pas Hitcher, c'est assez anecdotique finalement, quoi. C'est un réalisateur qui fait beaucoup de télé maintenant, et notamment qui tourne avec Tom Selleck sur pas mal de téléfilms, voilà. Donc c'est, je pense clairement un espoir déchu, quoi, du cinéma d'action. Mais force est de constater que quand tu revois le film aujourd'hui, enfin moi j'ai presque envie, en fait, je me suis fait cette réflexion quand on a choisi ce film-là. Il faut préciser peut-être un truc avec les podcasts stéroïdes, c'est que quand on fait une vidéo stéroïde, quand on s'attaque vraiment à un sujet, on essaye de vraiment, parce que je fais ça avec mes amis monteurs, je fais ça avec Cédric Fontana, je fais ça avec Manuel Garcia Pou, avec Seb Le Gallo, et en fait Alain Mercier, quoi, et en fait on veut vraiment travailler sur un film qui nous plaît, dont on pourrait vraiment en fait se dire, voilà, là, on va passer du temps dessus, on va se faire chier à monter un sujet autour de ça. Et les podcasts stéroïdes, en fait, c'est plus une manière de traiter d'autres films qu'on aime ou pas. C'est-à-dire, voilà. Et là, en revoyant Hitcher, je me suis dit, putain, merde, ça mériterait peut-être un podcast, une vidéo, quoi, en fait, une émission vidéo, quoi. Parce que, voilà, ça tient encore extrêmement bien la route 34 ans après, quoi. Donc peut-être même l'un des derniers vrais grands rôles de Rutger Hauer, quoi, parce que après ça c'était quand même un peu vengeance aveugle,
effectivement, quoi. Et sur cette période il venait de cartonner coup sur coup, parce que la raison pour laquelle il y a Jennifer Jason Leigh dans Hitcher, c'est que il venait de tous les deux de faire la chair et le sang juste avant. Je pense qu'elle avait encore envie de se frotter à lui d'assez près, mais effectivement, donc je me souviens qu'à l'époque il avait un statut aux yeux des geeks du fait de son rôle dans Blade Runner. Bon, toi évidemment c'était par rapport au film avec Stallone,
Les Faucons de la Nuit.
Les Faucons de la Nuit.
Il est cool, voilà, ce film. Voilà. Ça.
Pour toi, Rutger Hauer, c'était Les Faucons de la Nuit.
Non, mais pour moi, Rutger Hauer, c'était clairement Blade Runner.
Blade Runner, mais en enchaînant donc La chair et le sang et Hitcher, qui étaient tous les deux des films qui n'étaient pas des films de studio vraiment, mais qui étaient des productions indé sorties de nulle part et qui nous ont mis deux claques successives, en gros, il est devenu un demi-dieu, quoi. Donc, la suite, La légende du Saint-Buveur et tout ce qui est arrivé après, c'était genre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais effectivement, oui.
Ouais, et puis encore, ça, c'est, tu pourrais croire que le type va revenir, tu vois, derrière, mais c'est vrai que, voilà, je pense, je te dis, Vengeance aveugle de Philip Noyce,
ouais,
qui est quand même assez risible, hein,
c'est clair.
Il joue un samouraï blanc aveugle qui, voilà, c'est Sato Ichi, mais en version film d'action bourrin des années 80.
Et celui-là
90,
aussi, on s'est précipité pour le voir, parce qu'on était convaincu que Philip Noyce avait réalisé Calme Blanc ouais, avant de découvrir que c'était peut-être pas lui.
Voilà, donc il y a ça, qu'est-ce qu'il a fait après. Moi, je me rappelle de trucs genre Wedlock, les trucs comme ça, Split Stream, tu vois, c'était un truc de SF, pareil, tu te dis, ça a été la Blade Runner, c'est pas du tout la Blade Runner, donc, enfin voilà, là, moi, je pense aujourd'hui, il est au paradis des seconds couteaux, quoi, mais c'est vrai qu'il avait commencé avec une vraie carrière de ça aurait pu être Harrison Ford, le pendant presque, non, comment dire...
C'était une icône de cinéma, ouais. Effectivement, Hitcher compte parmi ses rôles les plus iconiques, quoi. Il a créé un personnage, manifestement, qui reste, en fait. C'est-à-dire que quand on prononce aujourd'hui aux gens qui l'ont vu le mot Hitcher, on a tout de suite cette image sous la pluie, avec son imperméable, de cette figure menaçante, ou alors avec son shotgun fameux, là.
Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre. Alors, Jean-Baptiste Torré a une collection chez Studio Canal,
ouais.
Make My Day, où il ressort quelques perles comme ça, en fait, un peu.
La raison pour laquelle il est justement pas ressorti en prestige, etc., c'est que ça, du fait de sa production, tous ces films qui ont été produits par des petites compagnies dans les années 80, en fait, c'est eux qui ont du mal à exister aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils appartiennent pas au catalogue de major. Mmh. Donc, du coup, ils sont pas sur les plateformes de streaming, ils sont pas, tu vois. C'est une, et il faut des éditeurs indépendants pour que ces films puissent revenir et être redécouverts. Voilà, par
mais justement, là, il me semble qu'il a été annoncé. Mais j'arrive pas à retrouver une date. J'ai cherché un petit peu pour avant d'enregistrer ce podcast. Là, j'arrive pas à trouver une date, donc il faudrait vérifier avec l'intéressé. Si vous voulez vraiment le revoir, il y a un Blu-ray allemand qui existe, hein, voilà, qui est relativement propre. Mais c'est vrai que sur le circuit français, il reste un DVD dont je crois la dernière édition date de 2003. Mmh. Autant dire, il est assez pauvre. Donc voilà, mais toujours est-il que ouais, c'est un film qui tient encore vraiment très très bien la route et je le répète en fait, qui aurait, je pense, même mérité une émission, une vraie émission vidéo sur le film, quoi.
Donc voyez Hitcher et puis voyez Le Détour de Edgar G. Ulmer pour ceux qui connaissent pas. Si vous avez envie de vous faire un classique des années 40 qui sorte vraiment de l'ordinaire et surtout que vous y reconnaîtrez beaucoup beaucoup de choses contemporaines.
Merci Raph.
Merci Steph.
Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux habituels, Instagram. Vous pouvez nous écouter aussi sur YouTube, sur SoundCloud, sur Spotify, sur Deezer. Et vous pouvez aussi regarder nos émissions vidéo sur YouTube aussi. Voilà. Et moi, je remercie Alain Mercier à la technique et je vous dis à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.